Chers amis de PFC, bonsoir. Bienvenue dans cette réunion à Romainville. Nous sommes le dimanche 25 janvier 2015. Simon et mes comptes sont bons. On va faire un petit tour de prénoms. À cette occasion, on peut saluer qui on souhaite saluer. Et puis ensuite, on partagera un peu plus sur l'actualité.
Bonsoir, Elisabeth.
Bonsoir, c'est Christine. Je salue Lina, Cathy, Nancy.
Bonsoir, c'est Ludmilla.
Bonsoir, c'est Véronique. Je salue notre nouveau groupe situé dans les Yvelines, dans le 78, constitué de Jacques et de Thierry. Bravo.
Bonsoir, c'est Avi. Je suis ravi de présenter cette réunion. Préparez-vous au changement, quasi hebdomadaire. Je salue chaleureusement Lina. Et puis je salue les personnes habituellement présentes qui n'ont pas pu être là ce soir, comme Cathy, Juliette, Jacques. Enfin, Jacques, il a de bonnes raisons, puisqu'il est dans son groupe personnel. Et puis ça minimise les déplacements et ça économise un peu d'énergie. C'est aussi le but que d'avoir des groupes de soutien répartis sur le territoire. Voilà, alors il y a eu beaucoup de messages de Cobra cette semaine. Peut-être avez-vous des choses à dire à propos de ça. Et puis Elisabeth qui est nouvelle, si tu as des questions. C'est possible aussi, à titre d'exercice pour une personne de notre groupe, de résumer en 2 ou 3 minutes l'ensemble de PFC, si c'est utile, pour connaître un petit peu. Ça nous fait une sorte de révision. Est-ce que quelqu'un sent faire ça? Ça frétille à ma droite.
Tenez-vous.
Alors, préparez-vous au changement. Prepare for Change est un groupe dont les membres sont situés sur tous les continents, dont on peut donner une ancienneté d'environ à peu près 2 ans. C'est bon, peu importe, mais il y a néanmoins désormais un groupe. C'est un groupe désormais bien constitué, dont le but est de former les membres à préparer ce que l'on appelle l'événement. Cet événement, en fait, il a été... on en parle dans divers textes anciens. Il est prévu pour se produire... à cette époque, nous n'allons pas donner de date, mais il est certain que le tournant du 21 décembre 2012 a été marquant, probablement plus dans dans le règne éthérique, dans la dimension éthérique. Il y a eu peu de manifestations apparemment au niveau physique, mais c'était néanmoins une date importante. cet événement consiste à la fois en une manifestation non physique, mais qui sera néanmoins ressentie par chaque être humain à la surface de cette planète. Cette manifestation proviendra du Soleil central galactique et elle sera initiée par ce que l'on peut appeler Dieu, l'énergie créatrice, amour. Et qui viendra baigner toute la surface de la planète d'une énergie d'amour de nature à enfin enlever cette sorte de chape de plomb qui a empêché des humains de s'épanouir comme ils auraient dû le faire. Donc ça, c'est pour la partie non physique de cet événement. La partie physique sera constituée par des faits tangibles, à savoir une remise à zéro, un reset financier de toutes les banques mondiales. Il est bien évident que c'est préparé de longue date par ce que l'on peut appeler du personnel au sol, c'est-à-dire des personnes de bonne volonté, des volontaires au service de la planète, qui sont placés sous couverture, c'est-à-dire incognito, à différents postes clés, dans des gouvernements, dans des administrations, dans des armées, etc., etc., qui pour le moment travaillent sans se faire remarquer, et qui le moment venu procéderont à ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire pour les uns, les unes, arrêter au terme juridique, placer sous mandat d'arrestation les personnes, quel que soit leur niveau au point de vue social, qui auront commis toutes sortes de malversations, que ce soit au niveau politique, économique, etc. Mettre en place le plus rapidement possible, bien sûr, une nouvelle gouvernance. Mettre en place également le plus rapidement possible, pour des raisons que vous comprendrez, le système financier équitable, avec une monnaie adossée à l'or, procéder à la distribution des fonds de prospérité qui ont été depuis plusieurs siècles, qui ont été rassemblés et sauvegardés, mis de côté à la fois par le maître ascensionné Saint-Germain et par les familles chinoises que l'on appelle famille des dragons. Donc il y a ces deux aspects, à la fois éthériques et à la fois physiques, avec des actes bien concrets. Et comme cela va se produire dans tous les pays, donc mondialement, ça nécessite, vous vous en doutez, une organisation dont on a peine à concevoir, et non seulement une organisation, mais surtout une coordination entre tous les intervenants. C'est pourquoi il y a non seulement le site internet prepareforchange.net, qui est en anglais, c'est un site américain, dont les responsables sont Robert Potter, P-O-T-E-R, qui est sur Facebook, et un cadre supérieur dans le domaine de l'assurance, dont le nom de code est Nova Biscotti. Ces deux hommes sont donc les responsables de Prepare for Change. Et pour terminer cette synthèse, je n'oublie pas évidemment quelqu'un de très important, dont le nom de code est Cobra. La plupart de ceux qui nous écoutent le connaissent. Il s'agit d'un pléiadien qui s'est incarné à cette époque afin d'œuvrer, puisque le temps est venu pour délivrer la planète, et Cobra. Cobra sont en fait chacun des lettres de son nom correspondent à, en anglais, compression, breakthrough, c'est-à-dire percée par compression. C'est-à-dire que la Terre est depuis des siècles enserrée, entourée d'une sorte de grille électromagnétique, mais sur le plan éthérique, qui empêche la connexion directe avec le divin, ou tout au moins qui la minimise énormément. Et donc Cobra, dont c'est le nom de code, son rôle est d'être le porte-parole entre le mouvement de la résistance, ces personnes dont je parlais, qui sont à des postes clés, d'être leur porte-parole et de coordonner des actions. Il tient également un blog, Portal 2012. Je pense avoir fait un résumé à peu près complet. Je laisse peut-être quelqu'un donner d'autres informations.
Voilà, s'il y a des questions, n'importe lesquelles, on peut y répondre.
Ma question est, les personnes qui sont au poste clé, sont-ils conscients de leur rôle, ou est-ce qu'ils se réveillent progressivement, ou est-ce qu'ils sont déjà conscients depuis longtemps de leur rôle et de les tâches qui les attendent?
En grande partie, je dirais oui, c'est nécessaire. Tout au moins pour celles qui sont vraiment au poste clé, puisque ces personnes sont en relation avec Cobra et le mouvement de la résistance. Par contre, il y a une autre catégorie que l'on appelle les travailleurs de lumière, les light workers, dont nous faisons partie, ou même tout simplement tout être humain dont le vœu le plus cher est que ce soit son cœur qui mène sa vie et non plus son mental, et que ce soit des valeurs d'amour, de partage, de liberté, de création qui désormais mène sa vie, est un travailleur de lumière. Même s'il n'en a pas conscience et qu'il ne fait pas partie d'un groupe, dans la mesure où au niveau de ses pensées, il répand autour de lui une telle qualité vibratoire, c'est un travailleur de lumière. Voilà, donc il y a à la fois un groupe clé qui est briefé, nous le supposons, très régulièrement sur les avancées et ce qu'il convient de faire. Et puis il y a également l'autre partie de l'équipe qui œuvre également de son côté, notamment par les méditations mondiales tous ensemble. C'est vraiment très important de savoir que pour la France, à 20h, nous sommes réunis et nous faisons cette méditation. Mais sur la planète, au même moment, il faut s'imaginer que sur les continents, il y a des points de lumière qui s'allument. Ce sont toutes les pensées d'amour qui sont en train de s'élever lorsque tous les membres de Prepare for Change font cette belle méditation tous ensemble en même temps.
Autre chose. Voilà, il y a peut-être un moment aussi pour donner quelques actualités. J'ai une rubrique hebdomadaire qui s'appelle Le Monde Change, dont j'essaie d'alimenter à travers des articles de presse, mais tout à fait standards. Ça vient du journal Le Monde. J'ai un article du Monde cette semaine. Il est assez impressionnant, à mon sens. Faut-il repenser la mesure de la richesse d'un pays ? Alors, en France, c'est un résumé que je vous fais. En France, une proposition de loi écologiste, adoptée en commission mercredi à l'Assemblée nationale, vise à adopter de nouveaux indicateurs comme les inégalités, la qualité de la vie et le développement durable dans l'orientation des politiques publiques. Il ne s'agit pas de refonder le calcul du PIB, mais de ne plus se contenter de ce seul chiffre. Ça, c'est énorme. Ça me fait penser immanquablement au Bhoutan, ce pays où c'est le bonheur national brut qui est l'indicateur de la richesse du pays. Et que tous les efforts du gouvernement visent à augmenter le bonheur national brut. Et ils sont réputés mondialement pour ça, et c'est le seul pays au monde, pour le moment, qui a ça comme politique déclarée de gouvernement. Voilà. Alors, bien sûr, ça vient des écologistes, ils ne sont pas majoritaires. Cependant, à défaut de faire remonter la température, n'est-il pas temps de changer le thermomètre ? Ça, c'est intéressant. Et puis, il faut bien une graine, quelque part, pour que les idées germent. Peut-être que c'est la graine. L'amélioration, ou du moins l'aménagement de la mesure du produit intérieur brut, qui sert à évaluer la croissance, est dans l'air du temps. Voilà, les principales réformes passées, en cours et à venir, seraient aussi examinées au regard de ces critères. Il ne s'agit pas de remplacer le PIB, mais de le compléter par d'autres indicateurs permettant d'avoir une vision plus juste de notre société, explique l'auteur de la proposition, l'écologiste Eva Sass, SAS. Car l'indicateur mesurant l'évolution de la richesse produite sur le territoire est controversé depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Les économistes réunis au sein du Forum pour d'autres indicateurs de richesse, FAIR, ont notamment insisté sur l'importance d'inclure des facteurs humains et écologistes dans l'appréciation de la richesse nationale. Et puis, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut comptabiliser aussi tous les apports à la société. Un artiste apporte quelque chose, une richesse à la société. Une mère de famille apporte un travail qui n'est pas comptabilisé en termes de PIB, mais elle apporte un travail incontestable et extrêmement important. Et ça contribue à la richesse de la société. Donc, voilà une nouvelle parue le 21 janvier dans Le Monde qui m'a fait sursauter de joie, tellement c'est attendu. Alors, en direct pratiquement, sous mes yeux, Grèce, victoire historique du parti de gauche radical Syriza, qui obtient 35,4% des voix contre 29% à la Nouvelle Démocratie. Après le déroulement, le dépouillement d'un quart des bulletins de vote, ils n'ont toutefois pas la majorité absolue pour le moment à l'Assemblée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, s'il y en a, s'il en reste, ce parti de gauche a pour programme de cesser la cure d'austérité drastique que vit la Grèce et qui plonge les gens dans le désespoir et dans le chômage. Voilà, donc, si ce parti obtient une majorité, c'est quelque chose d'assez important pour l'Europe, parce que ce parti pourrait s'opposer au remboursement de la dette, ou alors voudra effacer une partie de la dette. Ce qui a valu à beaucoup d'indicateurs comme l'or, qui est un indicateur de la fièvre dans le monde, de monter énormément. Cette semaine encore, à l'approche des élections grecques, l'or est monté en flèche. C'est le thermomètre. L'or, quand le monde a la fièvre, il y a peut-être 2-3 mois, la pièce de Napoléon en or coûtait 180 euros. Elle est aujourd'hui à 220 euros. Donc il y a eu plus il y a des craintes, plus il y a des incertitudes dans l'économie, et plus la valeur refuge que constitue l'or grimpe en flèche. Donc voilà, c'est les choses bougent. Si ce n'est un pays, au moins une population qui s'est dressée contre des mesures qui viennent d'économistes et qui ne sont pas propices au bonheur, ne sont pas orientées vers le peuple, mais plutôt vers une vision de l'économie très, très austère, des coupes budgétaires, baisser le salaire minimum. Voilà. Une des premières revendications de ce parti, Syriza, c'est de ramener le SMIC à 715 euros, alors qu'il a été baissé à 500. Il y a beaucoup de Grecs qui n'ont plus d'électricité chez eux parce qu'ils n'ont pas pu la payer. Et Syriza propose de l'électricité gratuite pour ces gens-là. Donc une vision beaucoup plus humaniste de la politique. Voilà, peut-être. Alors, qu'est-ce qui m'a retenu mon attention, c'est que le premier... un personnage politique important espagnol est venu en Grèce pour copier ce que la Grèce a fait en Espagne, parce qu'en Espagne aussi, la crise fait des ravages. Donc, voilà. Si ça devient une épidémie de assez d'austérité, ça peut que être une bonne nouvelle.
Est-ce que la conséquence est que la Grèce pourrait éventuellement sortir de l'Europe?
Alors c'est la grande frayeur. Ils ont même créé un mot pour ça. Ils ont appelé ça le Grexit. Greece exit. Alors c'est la grande frayeur de l'Europe, parce qu'en vérité, ce n'est même pas prévu dans les statuts. C'est pas possible de sortir de l'euro. De l'Europe, oui, mais il n'y a aucune clause qui permet à un État de sortir de l'euro. Ils ont même dit l'adhésion à la zone euro est irrévocable. Mais en vérité, c'est une manière d'instaurer une sorte de dictature de l'euro, puisque si... Alors la Grèce pourrait sortir de l'euro en quittant l'Europe et en demandant immédiatement à réadhérer avec des conditions exceptionnelles comme ont été accordées à la Grande-Bretagne, qui n'est pas dans la zone euro, mais qui est dans l'Europe, la Finlande, il y a d'autres pays comme ça, qui ont demandé, négocié des procédures exceptionnelles pour ne pas adopter l'euro. Donc, cela dit, c'est pas dans les plans annoncés de Syriza, mais je dirais que si il y a à un moment ou à un autre une volonté de faire défaut, c'est-à-dire de ne plus payer les emprunts qui ont été accordés à la Grèce, il pourrait y avoir une sorte de boule de neige qui pourrait amener à ça. Donc, il va sans dire que tous les politiciens, les économistes ont les yeux rivés sur la Grèce, parce que ça peut être la chose qui va faire des ravages si ce parti applique réellement tout son programme. Au-delà de simplement des élections, 34% d'un pays qui vote contre l'austérité, il est clair qu'ici, il y a une sorte de rébellion. Hein, il y a une sorte de... assez. Il y a une sorte de... Le peuple se dresse et contre un pouvoir qui est imposé, en vérité. L'austérité est imposée. C'est anti-humaniste, toutes les mesures draconiennes. Ils ont même fermé la télévision publique à cause de ces mesures. Il y a quelque chose de l'ordre d'une manipulation drastique de la population. Donc, c'est quand même le peuple qui a réclamé son pouvoir, qui s'est dressé. Et n'oublions pas que la première des démocraties, elle est grecque. Hein, elle a été... Il y a des siècles et des siècles vécus en Grèce, mais ce n'était pas du tout la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, démocratie, c'est un mot qui vient du grec. Démos, le peuple, et kratie, c'est le pouvoir. Le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, donc l'histoire se rejoue. Hein. Peut-être que les Grecs vont réinstaurer une démocratie qui leur convient, en tout cas... Ils ont clairement exprimé le message, celle-là, elle ne nous convient pas. Hein. Elle n'est pas pour nous supportable. Hein. En vérité, elle n'a de démocratie que le nom. Hein, parce que, voilà, la vraie démocratie, autant des Athéniens, autant de la Grèce antique, elle se faisait par tirage au sort. Et il n'y avait pas, il y avait une obligation de résultat. Ceux qui étaient élus ou tirés au sort, s'ils ne remplissaient pas un bilan correct, ils étaient éjectés immédiatement. Et le tirage au sort permet qu'il n'y ait plus de gens qui se droguent au pouvoir ou qui se présentent simplement pour des buts personnels plutôt que... Voilà. Donc, les députés étaient tirés au sort et c'était le peuple qui votait les lois. Hein. C'était le peuple tout entier qui votait les lois, qui proposait des lois et qui les votait. Donc voilà, donc on peut suivre l'actualité. Il y a de 29 à 35, il y a 6% d'écart entre ce parti de gauche radicale, Syriza, et puis le parti sortant de la nouvelle démocratie. On peut peut-être l'appeler l'ancienne démocratie maintenant. Voilà.
Après, ils ne sont pas majoritaires.
Voilà, ils ne sont pas majoritaires. Le but, s'ils n'obtiennent pas une majorité absolue, ce qui n'est pas encore impossible, hein, puisqu'ils ont dépouillé qu'un quart des bulletins, mais le but... ils seront la formation majoritaire au Parlement, donc difficile de les contrer, et puis ils pourront faire des alliances avec des petits partis qui sont avec lesquels ils partagent certaines valeurs. Voilà donc à suivre hein, dans l'actualité. J'ai une autre nouvelle assez, si j'arrive à la retrouver, assez intéressante de cette... de cette semaine, c'est sur Yahoo Finance, hein, Yahoo Finance qui donne certaines infos assez intéressantes. Les villes du futur auront des fermes verticales au cœur des villes, c'est-à-dire que l'agriculture sera locale, et c'est déjà en cours d'élaboration, hein. L'agriculture sera locale, et puis ce sera disposé dans des bâtiments et avec des plantes qui seront avec de la lumière artificielle, avec des étages. L'avantage de ça, c'est que le plus gros de la consommation étant dans les villes, eh ben, tout sera local. Et puis, ça a été inventé au début des années 2000 par quelqu'un qui s'appelle Despommiers, professeur à New York. Le concept de ferme verticale ne cesse de faire des émules. Sur les toits de New York et de Montréal, les agriculteurs, comme geeks, comme les mordus d'informatique, mêlent nouvelles technologies et agriculture pour produire en pleine ville des légumes frais et sans pesticides. Donc, c'est deux avantages importants. À Singapour, on économise l'espace, ressource aujourd'hui raréfiée, en érigeant des tours agricoles de 10 mètres de haut. Aux Pays-Bas, des diodes électroluminescentes, LED, dernier cri, veillent sur les cultures urbaines, remplaçant les rayons du soleil en hiver. Si aucun gratte-ciel agricole n'est encore sorti de terre, les technologies qui le permettent existent déjà. Des projets fleurissent ainsi à travers le monde, dont le gigantisme ne fait pas toujours l'unanimité. Certains craignent par ailleurs la voracité de l'industrie agroalimentaire qui pourrait dévoyer le rêve de Dixon Despommiers. De jeunes architectes réagissent et s'approprient les principes fondateurs des fermes verticales dans l'optique de convertir les villes de demain en écosystèmes autonomes. Voilà, donc il y a une refonte de l'agriculture pour s'adapter à la société d'aujourd'hui. Et puis, si c'est sans pesticides, c'est autant de santé en plus pour les habitants des villes. Mais je dirais, ça passe par une certaine intelligence de produire localement et puis de produire de manière saine. Voilà, tout ça, c'est une nouvelle que je trouve assez positive. Alors, les agriculteurs, comme tout le reste, devront s'adapter. Peut-être les agriculteurs travailleront dans les villes, pourquoi pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, les villes mondiales concentrent 80% de la population du monde. Donc, il y a une nécessité d'adaptation. Et puis, aujourd'hui, beaucoup de choses, grâce à Internet, se réorganisent. Le financement participatif, c'est les particuliers qui financent des projets de particuliers. C'est plus horizontal qu'avant. Il y a beaucoup de... Le pouvoir se remet beaucoup à l'horizontale dans plusieurs domaines. Je peux louer une chambre chez moi à quelqu'un qui est en vacances en France sans qu'il soit obligé de passer par une société ou par syndicat d'initiative. Il n'y a plus remonter la pyramide pour la redescendre. On coupe à travers champ. Pareil pour louer des voitures, faire des déplacements, faire du covoiturage. Il y a énormément de changements de société où le pouvoir vient du peuple et fait appel au peuple. Et donc il n'y a plus un appel aux instances, que ce soit des instances économiques comme les grosses sociétés, les multinationales, ou que ce soit des instances de gouvernement. Donc, je suis convaincu que ce changement-là amènera un changement de conscience et que c'est ça qui amènera l'événement. C'est ce changement. Peut-être il va se passer rapidement, peut-être il va se passer plus lentement. Parfois, ça peut être comme une épidémie. Ça veut dire qu'il se passe un gros truc comme les attentats de Charlie Hebdo. Et tout d'un coup, les groupes de méditation, moi j'ai eu 34 personnes, alors qu'il y en a 20 d'habitude, dans mon groupe de méditation, le mercredi. Ouais, j'ai eu 34 personnes, ça arrivait à peine à rentrer dans la pièce. J'ai pas fait le rapprochement tout de suite, mais après c'était évident. Il y a eu un festival de méditation, là, vendredi, samedi, dimanche, plein, complet, à ras-bord. Ils refusaient du monde. Donc, il y a parfois des circonstances sur Terre qui font que tout d'un coup, les humains se posent les vraies questions. Et tout d'un coup, la manipulation devient beaucoup plus insupportable parce que c'est les valeurs humaines qui viennent à l'avant-plan. Et on n'est plus... C'est une sorte de réveil parfois brutal, hein, parce que des événements tragiques peuvent être à l'origine de ce réveil, mais un réveil du mouton qui n'a pas la force, n'a pas le courage, ou ne se sent pas assez de pouvoir pour se dresser contre les manipulations diverses et variées. Donc voilà, des nouvelles comme ça, et bien il y en a toutes les semaines, même sans, en lisant normalement la presse ou les indicateurs économiques que je regarde un petit peu, et bien toutes les semaines il y en a. Toutes les semaines il y a quelque chose qui dit le monde dans lequel nous vivons, c'est possible de l'améliorer en mettant plus de place pour l'humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui a beaucoup de place, mais l'humain, il passe un peu derrière. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Hein. On vous prête 300 milliards, mais licenciez. Hein. Licenciez les gens, coupez dans les dépenses, coupez les allocations familiales. Qui c'est qui trinque? C'est ceux qui sont tout en bas. Hein. On ne peut pas parler de mesures humanistes, mais par contre, on peut dire que le nerf de ces emprunts, c'est il faut que vous soyez à l'équilibre budgétaire, c'est l'argent. Hein, c'est vraiment l'argent d'abord, et puis si l'humain suit ou pas, c'est presque secondaire. Mais là, ça s'est passé autrement. Visiblement, le peuple... Alors moi, j'ai trouvé assez joli le slogan de Syriza, qui était « L'espoir arrive ». En deux mots, il faut le faire. Hein. Je trouve que c'est vraiment... Et puis le parti sortant n'a pas du tout fait campagne sur son bilan, mais a centré toute sa campagne sur démolir l'adversaire. Donc c'est parlant. Si on démolit l'adversaire, c'est qu'il est fort. C'est pas... Mais si j'ai des propositions concrètes, positives, pour sortir du marasme, c'est évident que je vais parler plutôt de ces propositions que de mon adversaire. Donc voilà, tout ça, ça se tient. Hein, tout ça, c'est, voilà, donc cette semaine, beaucoup de messages de Cobra à propos de l'œuf. Alors, ce sont des messages codés. Hein, donc, les messages... pouvait être quelque chose comme trois mots, je vais essayer de retrouver un. Trois mots. Les messages de Cobra ne nous sont pas destinés. Hein, mais ça parle beaucoup d'œufs en ce moment et il y a eu beaucoup de messages cette semaine. Sauf si quelqu'un en a un de mémoire. Œuf, c'est quelque chose comme œuf étrange libéré. Hein, tout comme ça.
Ce qui est notable, c'est qu'il y avait un compte à rebours commencé il y a plusieurs mois au niveau 5. Il semblerait, en recoupant des commentaires de membres du site Cobra Etheric Liberation Group, qui est, je dirais, la page Facebook la plus importante concernant vraiment Cobra, les membres les plus informés, publie des commentaires. Et d'après certains d'entre eux, ce fameux œuf étrange, avec son compte à rebours de L5, qui est arrivé ensuite à L0 et enfin qui est arrivé à complétion, c'est-à-dire terminé, aurait trait à certains types de quarks. Voilà, et on peut le mettre en relation avec les armes éthériques de type bombe Strangelet. Alors pour peut-être les personnes qui nous écoutent pour la première fois, tout ça c'est un jargon assez obscur, mais ça désigne malheureusement des armes d'une violence extrême, puisqu'elles se situent au niveau subatomique et peuvent, ce ne sera pas le cas, donc on ne va pas l'évoquer, mais le but de leur construction et de leur positionnement était de réduire à néant la planète Terre si les forces de la Résistance et la Confédération Galactique faisaient une intervention de choc pour libérer la Terre. Donc c'est pour cela que le mouvement de la Résistance procède avec méthode, avec prudence, et on a remarqué, grâce au message de Cobra, que le compte à rebours, en quelques jours, on est passé de 3 à 2, 1, 0, et maintenant, cette histoire de Strange Egg, c'est terminé. Voilà. Donc, c'est un très bon indicateur, ça va de plus en plus vite. Pour parler simplement, la résolution de certains problèmes s'opère de plus en plus rapidement. Donc, en fait, le mouvement de la Résistance a les coups des franches de plus en plus.
Alors, depuis une semaine, il y a pratiquement un message tous les jours. C'est une chose assez rare. Alors moi, je sens une certaine accélération. Et avant même que Véronique ne m'en parle, j'ai réalisé aujourd'hui que, par exemple, lundi dernier, c'était infection L2 de l'œuf étrange enlevé. J'ai fait le rapport entre le mot étrange et les propriétés des quarks. Alors les quarks, c'est des particules qui forment les noyaux des atomes. C'est les plus petites connues aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé encore à casser un quark en deux. Mais ce qui est très, très rigolo dans ces particules, c'est que les physiciens leur ont donné des propriétés comme charme, étrangeté et couleur, au lieu de dire spin ou des choses habituelles pour les électrons et tout ça, il y a charme, étrangeté et couleur. Donc il y a des caractéristiques d'étrangeté d'un quark. Ça va un peu dans la poésie. Et donc quand je lis l'œuf étrange, et en fait ça, c'est comme dit vient de dire Véronique, c'est un rapport avec les quarks étranges. Il y a des quarks étranges, il y a des quarks avec des propriétés de couleur, mais ce n'est pas la couleur rouge ou ouvert. Et puis il y a des quarks avec une propriété de charme. Ah, c'est charmant tout ça. Donc, ensuite, il y a eu RR5 terminé. Alors ça, mystère, quant à la signification réelle. Après, on a eu juste un mot, RR6, et deux messages de la même journée, le 22 janvier. RR5 terminé et RR6. Donc, c'est des niveaux de... Voilà, je pense que c'est destiné aux forces de la Résistance, donc ça ne nous parle pas directement. Ensuite, vendredi, on a eu l'œuf étrange, infection L1 de l'œuf étrange enlevé. Après, hier, on a eu infection L0 de l'œuf étrange enlevé. Et puis, aujourd'hui même, à 16h, on a eu convergence de l'œuf étrange terminée. Et donc, je fais aussi la relation entre ces messages qui parlent d'œufs et la méditation de l'œuf rose qu'on a faite tout à l'heure. Et l'œuf, dans la méditation qu'on a faite, une structure de protection. Et il semblerait que cet œuf étrange, ça soit aussi utilisé par les forces de résistance pour protéger de ces armes nouveaux, très sophistiquées, qui s'appellent les bombes à Strangelet. C'est des bombes qui sont d'une technologie extraterrestre et qui contiennent des quarks, hein, qui sont basés sur les quarks. Et c'est pour ça que j'ai fait la relation entre ces messages et puis les quarks. Hein. Donc tout ça, en fait, on parle toujours d'un sujet à l'autre, il y a quelque chose de commun. Il y a l'œuf et puis il y a les quarks. Hein, qui sont... Voilà, donc une certaine accélération, je dirais, quand les choses s'accélèrent, c'est comme une spirale, hein. Ça va vers une résolution quelque part. Hein. Donc, voilà, même si nous ne connaissons pas, et pour cause, la date de l'événement, parce que sinon... Nous rentrerions dans des attentes et dans une tension extrême, hein, parce que c'est un tel changement de paradigme que si nous savions que c'est dans une semaine, voilà, on aurait du mal à fonctionner normalement. Hein,
et à accueillir.
Voilà. Donc moi, je suis quand même conscient que 99% de l'humanité n'est pas vraiment en conscience aujourd'hui, qu'il y a 1% ou même moins de lightworkers qui se sont incarnés spécifiquement en cette période pour aider l'humanité. Peut-être venons-nous des Pléiades, ça on ne le sait pas vraiment, ou de Vénus, ou de la Voie lactée, de quelque part, ou même d'ailleurs. En tout cas, les lightworkers sont ceux qui sont parmi les plus motivés pour faire changer les choses. Les autres étant un petit peu plus avec une inertie, hein, un peu plus difficile à faire bouger. Ça ressemble à ce qui se passe dans le métro. Hein. Je prends très rarement le métro, mais... dans le métro, c'est la tête en bas et le smartphone devant les yeux. Et communication pratiquement zéro. Moi, comme je prends rarement le métro, j'essaie de ne pas sortir le téléphone portable dans le métro. Et je regarde les gens, mais c'est difficile de croiser un regard. Hein. Bon, en même temps, ou un sourire, en même temps, il y a la fatigue parce que le rythme est tellement intense que les moments de pause où on est assis dans le métro, c'est bienvenu pour se reposer. Hein, je comprends. Et ceux qui prennent le TGV, il y a énormément de personnes qui dorment dans le TGV, tellement le rythme est usant. Alors dans cette nouvelle société qui suivra l'événement, nous serons appelés à travailler 3 à 4 heures maximum par jour. Ce qui est marrant, c'est que sur les radios comme ici et maintenant, il y a des échanges, des auditeurs appellent. Et puis, quand on leur dit qu'est-ce qui se passera d'après vous quand il y aura beaucoup de robots qui prendront notre place et qu'on n'aura plus autant besoin de travailler? Bien, il y a plein de gens qui disent on va s'ennuyer. Il y a plein de gens qui disent aussi on ne va plus servir à rien. Alors ça me sidère. Ça me sidère. Au lieu de dire waouh, c'est génial, on aura plein de temps pour méditer, on aura plein de temps pour faire des choses artistiques, pour se cultiver. Et les gens, les personnes qui disent on ne va plus servir à rien, à quoi l'humain va être utile, bon, c'est peut-être pas la majorité, c'est un auditeur qui a dit ça, mais est-ce que cet auditeur, il n'existait pas seulement avec la valeur travail, hein? Alors, les humides, ces extraterrestres qui ont communiqué avec la Terre dans les années 60, nous racontent qu'ils travaillent 2 à 3 heures par jour, même si leur journée fait 30 heures, leur journée est plus longue que la nôtre, et ils passent le reste du temps à se cultiver, à méditer, et puis à aller dans des concerts de parfums, et des choses magnifiques. Donc, ils ont eu aussi leur période de dictature, hein. Ils s'en sont sortis, et maintenant c'est en grande partie mécanisé, ça veut dire que leur maison, il y a un robinet avec du lait, il manque des provisions, ben, ça passe commande automatiquement, et ça arrive avec des tuyaux à air comprimé dans la maison. Donc ils ne peuvent jamais manquer de nourriture, les maisons sont gratuites. Voilà ce que ça donne quand une société est basée sur l'humain, parce qu'ils sont aussi humains que nous, hein, ils nous ressemblent, est basée sur l'humain plutôt que sur l'argent. On n'a pas besoin, pour subvenir à nos besoins, de travailler 8 heures par jour, ni 12 heures. 2 à 3 heures, c'est largement suffisant. Et puis chacun là-bas a ses facultés intellectuelles analysées. Il est orienté vers le travail dans lequel il sera le plus profitable. On ne va pas lui demander l'impossible et on ne va pas non plus le sous-utiliser. Donc c'est vraiment très... Fait très intelligemment. Je pourrais vous parler des heures de cette société parce que ça fait rêver. Les enfants sont séparés des parents à l'âge scolaire, je crois, vers 8-9 ans. Ils vont à l'université entre enfants. Ils sont dirigés entre enfants. Ils sont éduqués entre enfants, et puis il y a des périodes de jeu, et puis c'est là qu'ils se cooptent entre garçons et filles, et puis ils se marient dès que la fille est en âge de procréer. Il n'y a pas de frustration sexuelle, ils se marient, et comme leur quotient d'adaptabilité entre mari et femme sont calculés par l'ordinateur, c'est une société très scientifique, et bien il y a très... On leur dit le calcul montre que votre couple sera tout à fait stable et adéquat, ou on leur dit ce couple-là, on vous le déconseille. Mais ce n'est pas une obligation, ils peuvent se marier quand même. Mais on voit que d'après la psychologie de chacun, ça va faire des étincelles. Et donc, ce qui fait que le nombre de séparations est infime. Il y a très très peu. Généralement, ils sont toute la vie ensemble. Ils commencent à 14-15 ans. Ils sont mariés. Il y a une cérémonie avec la famille, les grands-parents. Ils se marient très très tôt. Et puis, leur sexualité est plutôt sacrée. Elle est plutôt comme célébration. Ils nous parlent de leur sexualité. C'est très très intéressant. Les humides, c'est la planète Humo. Alors moi, j'ai commandé pour une somme dérisoire les 5 fascicules qui contiennent toutes les lettres humides. Et il y a une description de leur vie quotidienne du matin jusqu'au soir. C'est passionnant. Alors, certains parlent de canulars, mais honnêtement, si vous lisez 3 ou 4 pages, c'est C'est pas possible d'avoir une imagination aussi fertile, donner des détails aussi précis, et surtout que personne n'a réclamé ce canular depuis 40 ans. Hein. Quand on fait un canular, c'est pour un intérêt personnel. Hein. C'est pour dire je vous ai bien eu. Bon, enfin, pour certaines personnes, le but c'est de décrédibiliser toute la sphère extraterrestre, et puis entre autres ça. Et les humites ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas influencer la Terre et qu'ils ne voulaient pas être connus, qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse la publicité. Ils sont venus sur Terre pour nous étudier, pour étudier la biodiversité, faire des études sur la télépathie entre planètes différentes, ce qu'ils ne pouvaient pas faire chez eux. Et en échange, ils nous ont donné ces lettres. Ils nous ont donné une partie de leur culture. Mais ils l'ont donné à certains scientifiques ou ufologues qu'ils ont choisis, parce qu'au début, ils les ont donnés au gouvernement, et tous les gouvernements ont mis ça à la poubelle. Et donc après, ils ont changé de public, et puis ça a commencé à se connaître un petit peu plus. Il y a un site, hein, Humo Science, je crois, Humo-Science, sur Internet. Bon, c'est plutôt en dormance aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de nouvelles lettres. La dernière date de 1990 ou quelque chose comme ça. Mais c'est éminemment intéressant parce que ça peut tout à fait nous parler de ce que sera notre Terre après l'événement. Vraiment, parce que il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de pouvoir de l'argent. Les maisons sont gratuites et leur argument, c'est lorsque l'offre est supérieure à la demande, ça décourage qui que ce soit de vendre sa maison. Hein, ils ont un système de crédit, des points, comme un compte bancaire, et tout se passe par virement. Il y a plus d'argent, comme on le connaît, nous. Ils ont un compte. Hein, ils ont un compte informatique où tout est centralisé. Voilà, pour les humites. Ils ont une conscience et puis un discernement, entre autres, un discernement par rapport à notre société. Hein. Ils nous parlent, ils rient de l'absurdité de notre mode de vie. Et puis, ils ne sont pas complaisants, c'est-à-dire ils savent bien que qui est à l'origine de ça. Donc, on peut en apprendre sur nous, avec un regard extérieur, en lisant ces lettres humides. Et puis, juste pour l'anecdote, ils ont eu une personne de l'Acabie de Jésus-Christ chez eux, c'est-à-dire qui enseignait l'amour et qui a été aussi martyrisée, qui a été assassinée, etc., mais qui a laissé des textes d'une profondeur sur la base desquels ils vivent encore aujourd'hui, hein, et qu'on peut retrouver en partie dans les lettres humides. Voilà. Je passe le micro.
Cela fait penser à The Venus Project, le projet Vénus. Lorsque l'on tape ces termes sur Google, on arrive sur le site, qui a été mis en place par un homme extraordinaire qui maintenant... avant son âge, mais qui a consacré toute sa vie à ce projet avec ses collaborateurs et ses collaboratrices, donc The Venus comme la planète Project. Ce monsieur, c'est un Américain, Jacques Fresno. Il est basé en Floride et il a designé, puisque l'une de ses pratiques professionnelles était d'être designer, mais surtout ingénieur, une société ayant précisément, comme en parlait Avi, comme base, l'abondance de ressources, ce qui est tout à fait ce qui devrait être, puisqu'il y a des ressources pour toute la planète, simplement, elles ne sont pas réparties. À partir du moment où il y a abondance de ressources, tout peut être distribué, il n'y a pas d'envie d'accaparer tout ce qui a fait le système actuel. Il y a aussi une page Facebook qui permet de se tenir au courant de l'avancée de ce projet. Et ça fait vraiment écho à cette organisation des UMIT. Et ça pourrait très bien être un avant-goût de, sur Terre déjà, qui est déjà dans, un petit peu en, comme ça, en latence de, d'un nouveau paradigme sociétal, une nouvelle mise en place de notre société, de notre façon de vivre, de travailler pour les uns pour les autres, en se préservant une qualité de vie, un niveau d'épanouissement extraordinaire et puis surtout un bien-être et un bonheur. Donc, The Venus Project, il y a sur Facebook, il y a une page en français, le projet Venus.
Des nouvelles en direct, puisque c'est vraiment l'heure de la Grèce, là. Syriza obtient 36,5% des voix, 150 sièges, et la majorité absolue, c'est 151. Oh. Et la gauche de la gauche en France est euphorique, Mélenchon et tout ça. Donc, ce n'est pas encore des résultats définitifs, mais... il manque un seul siège pour la majorité absolue, ce qui veut dire que c'est très très proche. Bah oui, je ne sais pas comment ça se... Il ne faut pas 50% des voix, je pense, pour avoir 50% des sièges. 36,5% des voix. Donc, victoire historique de la gauche radicale en Grèce. Alors, est-ce que ça va contaminer les autres pays qui ont fait face à l'austérité, comme l'Espagne ou comme d'autres est-ce que ça va donner des idées à certains? Voilà. S'il y a 99% des gens qui sont manipulés et 1% qui manipulent, il est évident que le rapport des forces est écrasant en vertu envers le peuple, hein, et que la seule chose que le peuple a à faire, c'est faire comme les Grecs, c'est-à-dire se dresser et dire assez à ce qui ne lui convient pas. C'est pas une révolution pour faire la révolution, c'est juste placer l'humain au milieu et puis le reste au service de l'humain. Voilà, alors c'est une mini-révolution ou une maxi-révolution en Grèce. Comme en Égypte, les révolutions peuvent être confisquées, hein, parfois. Et c'est probable aussi que celle-là soit diluée ou soit dévoyée. L'origine reste l'origine. Ça veut dire que les Égyptiens sont descendus dans la rue, le peuple grec a voté pour... l'origine, on ne peut pas la balayer. L'origine, elle vient toujours de la conscience. Et ceux qui manifestaient dans le printemps arabe, leur slogan devant les armes, c'était « on n'a pas peur de mourir ». Et il y avait les fusils devant eux. Et ce n'est pas possible d'arrêter quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Hein, c'est... on ne souhaite pas en arriver là, mais il y a un seuil de tolérance au-delà duquel il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien à perdre. Celui qui est d'accord pour se sacrifier, il a un pouvoir sans limite. Hein. On peut voir le pouvoir des kamikazes des terroristes qui se font exploser, eux, c'est impossible d'arrêter ça. Alors, de ce côté-là, c'est plutôt du côté du peuple qui se dresse, c'est plutôt positif. Hein. C'est pas pour la terreur qu'on fait ça. Mais combien il en faut dans les 99% qui se dressent pour que tout s'arrête? Vraiment très peu. Parce que pour faire face à 1%, il faut pas beaucoup de peuple. Hein. Même pas 10%. Hein. Alors bien sûr, il y a l'armée, il y a la police. Mais ce qu'on a vu dans les pays où il y a la révolution, c'est que souvent, quand il y a un soulèvement assez conséquent, la police rejoint le peuple. Et les soldats ne tirent pas sur leurs compatriotes. Hein. Quand il y a un soulèvement suffisamment important et que c'est pas subversif, c'est pas violent, c'est les causes sont légitimes. L'armée, elle est quand même, c'est quand même des êtres humains. Hein. Et puis, ils ont le droit, je crois que c'est aux États-Unis, ils ont le droit de refuser les ordres quand les ordres ne sont pas logiques. Parce que dans certains traités de l'Europe, il paraît qu'il y a certains qui ont lu en détail et qui ont trouvé cette chose. Ils ont donné le droit à l'armée ou la police de tirer sur les manifestants à balles réelles si la manifestation était à but subversif. Ce qui, après, celui qui a le doigt sur la gâchette, c'est à lui d'apprécier si c'est subversif ou pas. Mais c'est quand même les peuples qui ont voté ça. Faut bien lire, hein. Faut bien lire ce qu'on vote. Mais c'est une manière pour le pouvoir en place de se protéger jusqu'au bout, hein, pratiquement, en cas de révolte.
C'est une loi dans quel pays cette loi ?
C'est européen, c'est le traité de Maastricht, où c'est ce qui a fondé l'Europe. Il y a un paragraphe qui parle de ça. Et puis, il y a, aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, ils ont adopté aussi une loi comme ça, parce que je crois que les instances dirigeantes commencent à avoir peur. Ils ont acheté des kits de survie pour la majorité des personnages haut placés aux États-Unis. C'est étonnant, hein, quand même, parce que des kits de survie avec... comment rendre l'eau potable, des biscuits, une pelle, des choses pour repartir de rien. Hein. Et ils les ont distribués à tous les hauts fonctionnaires. Bon, mais ils n'ont pas donné au peuple, hein, ils n'ont donné que à ceux qui étaient haut placés. Voilà, bon, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, mais moi je note une accélération, je note que la Grèce... veut diriger elle-même le bonheur de ses compatriotes et puis ce ne se fie pas à des mesures autoritaires pour ça et que bah, ça a fonctionné. Hein. C'est peut-être le début d'une chaîne qui dit si ça a fonctionné pour eux, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour nous. Peut-être qu'il faut simplement un parti... avec assez de courage politique pour dire on met l'humain au centre. Bon, enfin, Jean-Luc Mélenchon est en train de faire la fête, quoi. Il est complètement euphorique. Il a salué un moment historique. Voilà, une page nouvelle pour l'Europe. Peut-être que nous tenons l'occasion de refonder l'Europe qui est devenue l'Europe fédérale des libéraux. Pour qui le succès de Syriza est une lame de fond. Voilà. Alors bientôt le bonheur national brut. Notre rôle à nous, c'est d'éveiller les consciences, de diffuser les choses. C'est pour ça que cet enregistrement est diffusé sur le site Être Plus, à chaque réunion qui est enregistrée ici. d'en parler à nos voisins, nos amis, à ceux qui sont réceptifs. On peut simplement parler de la crise financière, du fait que les banques et les marchés, entre guillemets, hein, ceux qui sont les bourses mondiales, les banques centrales mondiales, ont un plan vraiment pour contrôler les marchés financiers qui est tout à fait contraire aux intérêts des gens. Ça, la plupart des gens sont d'accord avec cette hypothèse-là. C'est une manière de parler, de préparez-vous au changement pour ceux qui sont réceptifs.
Est-ce que tu peux rappeler où sont publiées les lettres pour les lettres aux dirigeants locaux et les outils qui sont à la disposition des lightworkers en cas d'événement?
Oui. Oui, alors il y a eu un document chronologiquement qui est sorti d'abord, il s'appelait Lettre aux dirigeants locaux, que notre équipe de volontaires a traduit de l'anglais. Celui-là, il est sur le site etreplus.fr, etreplus.fr, dans les petites annonces. Et dans les petites annonces, il y a des rubriques, il y a une rubrique PFC, comme les trois lettres de Prepare for Change. Et donc, tous les documents importants sont là, et puis d'autres qui décrivent l'événement. Il y a aussi, je passe le micro à Véronique.
Oui, excuse-moi, Ali, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est pour compléter l'information. Un blog a été créé tout spécialement, dont l'adresse est http://pfcevenement.blogspot.fr. Et sur ce blog, il y a donc ces deux documents. Il est destiné à recevoir, pour le moment, donc la lettre aux dirigeants, puisque le site, bon, évidemment, Être Plus est très important. Les pages Facebook de PFC le sont également, mais lorsque nous serons amenés à contacter des responsables de haut niveau, il a été jugé plus pratique et plus direct que ce soit par l'intermédiaire d'une adresse de blog que je répète, http://. Il n'y a pas les trois W. Tout de suite après, il y a pfcevenement.blogspot.fr. Voilà. Merci.
Et puis, plus récemment, il y a un document qui a été écrit, qui est plan d'action pour la sécurité et le bien-être de la population au moment de l'événement. Hein, et qui est un peu plus élaboré, et il est au même endroit. Alors, pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y a une liste de diffusion PFC, avec aujourd'hui à peu près 110 personnes dessus, pour recevoir chaque fois qu'il y a une réunion, le lien pour l'enregistrement de la réunion. Et aussi, ces documents-là sont attachés. Et puis, il y a des rappels, il y a des liens pour se former sur PFC.
Sur le site
etreplus.fr, oui. Voilà, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. Enfin, en ce qui me concerne, est-ce qu'il y a des choses à demander, à rajouter? Bon, Alors nous arrêtons là pour ce soir. Et puis comme dirait Cobra, victoire de la lumière et puis
la percée est proche.
Voilà, on peut continuer à émettre notre lumière dans cette direction. Voilà, alors je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, très certainement.